Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième partie de notre cycle consacré à la démocratie directe. Après avoir présenté la faillite de la démocratie représentative et avoir retracé comment on en est arrivé à choisir ce régime-là plutôt qu'une démocratie directe ou une démocratie authentique, on va voir maintenant, en remontant encore un petit peu dans l'histoire, comment la démocratie directe a été instaurée, a fonctionné pendant un certain temps, et quelles ont été ses faiblesses éventuelles, ses erreurs. C'est un sujet qui a l'air bien connu, mais en réalité, il circule beaucoup d'imprécisions, voire d'erreurs, des préjugés à propos de la démocratie athénienne en particulier. Et c'est souvent faute de retourner aux textes de l'époque qui décrivaient de manière précise justement ce fonctionnement et les critiques qu'on peut lui adresser. Alors, je vous rappelle que l'intérêt et le but de notre cycle n'est pas simplement théorique, documentaire, c'est aussi un but pratique puisque nous voulons essayer de réinstaurer, d'améliorer et de réinstaurer la démocratie directe au niveau au minimum municipal lors des prochaines élections de mars. Donc c'est important pour nous de faire cette évaluation et pas seulement dans un but simplement historique. À propos des sources dont nous disposons sur la démocratie antique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces sources étaient assez éparses. On en avait des fragments de débats chez les orateurs, par exemple Isocrate, Démosthène. On avait certaines indications chez des historiens comme Hérodote, Thucydide. On avait des réflexions critiques ou plus équilibrées chez les philosophes, par exemple Platon ou Aristote. Des moqueries aussi chez les auteurs comiques comme Aristophane. Mais en fait, on n'en avait pas une description systématique. Et puis, à la fin du XIXe siècle, on a trouvé un papyrus qui était inconnu jusqu'alors, dans lequel se trouve une œuvre presque complète qui s'appelle « La Constitution des Athéniens », en grec « Athénaion Politeia ». C'est un ouvrage qu'on a reconnu être de la main d'Aristote. Et il faisait partie, d'après d'autres sources, des doxographes de l'époque, il faisait partie d'un ensemble de plus de 150 constitutions qui avaient été réunies par l'école d'Aristote.
La démocratie est le régime où l'on se partage les pouvoirs par tirage au sort. Le but de la démocratie est la liberté.
Ces deux citations, tirées de la rhétorique d'Aristote, illustre bien les caractéristiques principales de la démocratie. Et déjà un siècle avant Aristote, chez l'historien Hérodote, on trouve un éloge de ce régime, curieusement, qu'il met dans la bouche d'un dignitaire perse, qui évidemment n'avait pas du tout le même régime.
Le gouvernement du peuple, tout d'abord, porte le plus beau de tous les noms, isonomie. Ensuite, il ne s'y fait rien de ce que fait le monarque. On y obtient les pouvoirs par le sort, on doit rendre des comptes à sa sortie de charge, toutes les délibérations y sont menées en commun.
Évidemment, ce régime ne s'est pas installé en un jour, loin de là. Il a mis plusieurs siècles à s'installer progressivement. Et vers le 8e, 7e siècle, c'est l'époque archaïque, on a en fait un conflit civil permanent entre d'une part les grandes familles qui se partagent la propriété foncière et d'autre part tout le reste de la population d'hommes libres qui sont souvent métayés sur ces grandes propriétés ou qui sont des petits artisans et puis progressivement des marchands ou des marins au fur et à mesure que se rétablissent des relations avec les régions voisines, notamment dans le bassin méditerranéen. Ces travailleurs sont constamment menacés d'être réduits en esclavage s'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Toutes les fonctions politiques sont aux mains des grandes familles, qui s'appellent eux-mêmes les eupatrides en grec, ceux qui ont les bons ancêtres. Donc c'est évidemment une aristocratie. Ces fonctions politiques sont principalement le roi, qui est héréditaire, et puis s'y ajoute un polémarque, c'est-à-dire un chef de guerre, et un archonte qui est chargé de certaines attributions judiciaires. Alors, il est très important d'insister sur le fait que on n'a pas là une économie esclavagiste, comme le dit un poncif qui remonte au moins au marxisme. on n'a pas du tout une économie qui repose entièrement sur le travail des esclaves et où alors les citoyens tout à fait oisifs auraient tout le loisir évidemment de s'occuper uniquement de politique. C'est un poncif tout à fait faux. En réalité, on a un petit peuple très laborieux et d'ailleurs qui vit difficilement de son travail et c'est pourquoi c'est justement ce qui explique toutes ces luttes civiles qui vont aboutir progressivement à un gouvernement de plus en plus démocratique. Donc, vers le 7e siècle, on a l'obtention en premier lieu d'un régime censitaire. C'est un régime à trois classes, donc de citoyens en fonction des revenus, où on est citoyen dès le moment où on a suffisamment de revenus pour se payer l'équipement d'hoplite. L'hoplite, c'était donc le fantassin qui partait à la guerre avec sa lance et son bouclier. Il fallait se le payer soi-même son équipement. Donc ceux-là sont citoyens, et ce corps des citoyens élit 9 archontes, des trésoriers et des stratèges, donc chefs de guerre. Et puis, il élit aussi un conseil de 401 membres, qui est une sorte de Sénat, dont les attributions vont prendre progressivement de plus en plus d'importance. On n'a pas des renseignements extrêmement précis sur la chronologie de ces attributions. On arrive à l'année 594, qui est un repère important, un de nos premiers repères chronologiques bien précis, où on sait que Solon, l'un des archontes, a été chargé de faire d'importantes réformes au régime en raison justement de toutes ces luttes sociales qu'il s'agissait de pacifier. Selon sa première mesure, c'est de supprimer l'esclavage pour dette. Alors pour ça, il est vraiment célébré dans tout le reste de l'histoire de la Grèce. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs législateurs, l'un des hommes les plus sages de la Grèce. Et il conserve le régime censitaire, mais il ajoute une quatrième classe composée des citoyens, des ouvriers, salariés, qui n'ont aucune propriété par eux-mêmes. Il donne le droit à ces nouveaux citoyens de participer à l'Assemblée et aux tribunaux. Cependant, la lutte sociale ne s'arrête pas là, en raison notamment des inégalités de richesse qui, elles, n'ont pas été modifiées depuis l'époque aristocratique. C'est pourquoi, à la faveur de ces conflits, de ces troubles, un certain Pisistrate prend le pouvoir par les armes et il instaure une tyrannie. Alors, le mot tyran et le mot tyrannie n'ont pas encore un sens aussi infamant qu'ils l'auront par la suite. En fait, ce qu'il instaure, c'est une sorte de despotisme éclairé ou de despotisme populaire. En réalité, c'est quelqu'un d'assez populaire, même s'il concentre tous les pouvoirs, parce que notamment, il fait accéder à la petite propriété rurale un grand nombre de citoyens qui, jusque-là, étaient totalement dépourvus. Donc, c'est quelqu'un qui a plutôt laissé un bon souvenir dans la mémoire des Grecs. En revanche, ses fils, lorsqu'ils héritent de ce pouvoir, eux, le rendent de plus en plus dur et arbitraire, de telle sorte qu'ils sont renversés par le peuple avec l'aide de Sparte. Alors là, évidemment, un engrenage un peu mauvais s'installe, avec l'aide de Sparte, et le régime de Solon est réinstauré. Nous sommes maintenant à la toute fin du VIe siècle. L'étape suivante, elle va être effectuée par un eupatride nommé Clisthène. Clisthène fait voter un redécoupage de l'Attique, c'est-à-dire donc cette péninsule sur laquelle se trouve Athènes, en vue d'effacer deux grands problèmes, deux grandes causes de conflit. D'une part, les inégalités sociales entre les trois régions principales de cette péninsule, à savoir d'une part la ville d'Athènes elle-même, d'autre part les régions côtières, qu'on appelle la Paralia, et puis la région intérieure, la Mésogée, c'est-à-dire la plaine centrale. Étant donné qu'il y a là des disparités sociales, c'est dans la Mésogée que se trouvent les grands propriétaires fonciers riches, c'est sur les rives que se trouvent les plus pauvres, et puis bon, le petit peuple d'Athènes qui est assez modeste lui aussi. Donc pour effacer ces distinctions sociales, et aussi les hiérarchies de noblesse qui sont héritées de l'ancienne aristocratie, à savoir l'appartenance à 4 tribus ancestrales. Donc pour effacer ces grandes inégalités, Clisthène fait voter un redécoupage administratif de cette péninsule de l'Attique. Donc parce que la cité d'Athènes, c'est toute l'Attique, c'est pas juste la ville. Et donc, au lieu des 4 tribus traditionnelles, il instaure 10 tribus qui sont constituées chacune d'une parcelle qui représente un dixième de la ville, d'un dixième de la Paralia et d'un dixième de la plaine centrale. Donc on a ainsi 30 petites parcelles administratives qui s'appellent des DEM. Et ce mot DEMOS, il existait déjà dans un double sens, à la fois d'un certain territoire et de la population qui habite sur ce territoire. Et c'est ce double sens qui est toujours celui du démos, de la démocratie. C'est le régime qui est fondé sur la population d'une certaine parcelle de territoire, désormais découpé de manière qui n'a plus aucun rapport avec l'ancienne aristocratie, avec la noblesse ou avec la richesse. À partir de là commence le fonctionnement démocratique que nous connaissons, sur lequel on est bien renseigné, et qui va durer pendant à peu près deux siècles, près de deux siècles, jusqu'à la fin du IVe siècle. Quel est le rôle des DEM ? Les DEM établissent les listes des citoyens qui habitent sur leur territoire, donc parmi les hommes de 18 ans, qui sont nés de pères athéniens, plus tard on rajoutera aussi de mères athéniennes, et qui n'ont pas été déchus de leurs droits politiques pour un délit public. Tous ces citoyens ont le droit de participer à l'assemblée unique qui se tient à Athènes. Parmi ces citoyens, chacune des tribus en tire au sort 50 chaque année qui vont composer le conseil, la boulé en grec, conseil de 500 membres, qui a pour principale fonction de préparer les assemblées. Elle les prépare en établissant les ordres du jour, en faisant les convocations et éventuellement en écrivant déjà les décrets qui vont être proposés au vote. Elle surveillera aussi ensuite les charges exécutives et jugera éventuellement les cas de malversation. Les membres de chaque tribu, les 50 membres de chaque tribu, composent aussi à tour de rôle sur l'année, donc sur un dixième de l'année, le bureau du conseil qui est chargé plus particulièrement de l'administration au jour le jour. Et d'ailleurs, ils siègent en permanence, ils logent tous ensemble dans un édifice spécialement dédié à cet effet, qui s'appelle le Prytané. Ce sont les 50 Prytanes, donc qui assurent cette charge pendant 35 ou 36 jours de l'année. L'Assemblée des citoyens, c'est l'Ecclésia. Attention, on confond parfois avec l'agora, ça n'a rien à voir. L'agora, c'est la place publique, c'est la place du marché, c'est là où tout le monde se rencontre, ça n'a aucune fonction politique. L'Assemblée des citoyens, c'est l'Ecclésia, elle se réunit sur une colline particulière, la Pnyx, qui ne sert qu'à ça. Les citoyens arrivaient par le bas, ils se répandaient sur toute l'esplanade, on voit qu'il y a de la place pour des milliers de personnes, mais ils devaient rester debout ou alors apporter leur propre siège. Et ils écoutaient les orateurs qui parlaient à la tribune, légèrement vers le haut, cette tribune dont il reste juste trois marches. L'Assemblée, elle se réunit ordinairement 40 fois par an. Elle a pour principale fonction, donc, non seulement d'élaborer les lois qui sont donc générales et pérennes, mais aussi de prendre les décisions ponctuelles qui s'imposent au fur et à mesure des besoins. Donc elle va se prononcer sur la guerre et la paix, les ambassades, le ravitaillement, les édifices publics, donc tout ce qu'il est nécessaire pour la gestion du territoire. Tout le monde peut y faire une proposition à la seule condition qu'elle n'enfreigne pas la Constitution. On peut faire une proposition soit directement à l'Assemblée, soit en passant d'abord par le Conseil qui établit un premier rapport. Tout le monde a aussi le droit de prendre la parole, c'est la célèbre iségoria, égalité de parole, même s'il semble qu'à certaines époques du moins, il ait été nécessaire de s'inscrire au début de l'Assemblée comme orateur et non pas d'intervenir à n'importe quel moment. Après que les discours aient eu lieu, on vote à main levée. Et donc plus ou moins, on ne fait pas nécessairement un compte précis des voix, on voit plus ou moins où se situe la majorité. En ce qui concerne les charges exécutives, elles sont tirées au sort chaque année parmi l'ensemble des citoyens, sauf les stratèges, chefs de l'armée, et les trésoriers en chef, qui sont des charges électives. Ce sont des postes à responsabilité, mais qui demandent très peu d'initiatives personnelles. En fait, les tâches sont assez précisément définies. Elles concernent, par exemple, la surveillance de la voirie, des édifices publics, les ravitaillements, le contrôle des marchés, des prix, des monnaies, les finances publiques, bien sûr. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une rotation importante, il faut que tous les citoyens, pour ainsi dire, à un moment de leur vie, passent par ces charges, de telle façon qu'on n'a pas le droit d'exercer la même charge plus d'une seule fois dans sa vie, ou, en ce qui concerne le conseil, deux fois dans sa vie, à la seule exception de la stratégie qui, elle, est une charge illimitée. illimité dans le temps. On a pu réélire de cette façon-là Périclès pendant un très grand nombre d'années. À sa sortie de charge, il est très important que chacun des mandatés doit rendre des comptes devant l'Assemblée et l'Assemblée juge s'il a accompli convenablement sa fonction. Enfin, le pouvoir judiciaire est exercé aussi entièrement par des citoyens non professionnels, il n'y a pas de juge professionnel, et on tire au sort sur l'ensemble des citoyens chaque année 6000 citoyens qui seront une sorte de réserve de jurés, qui seront ensuite distribués aux différents tribunaux selon les nécessités, selon les besoins, par groupe de 500. Donc un tribunal fait 500 jurés et ces tribunaux ont des thématiques différentes, couvrent donc toutes les nécessités judiciaires selon que le procès est public ou privé et selon la gravité des peines encourues. Pour ne pas désavantager les citoyens qui travaillent, une indemnisation est installée progressivement au cours du 5e siècle, d'abord pour les charges exécutives et pour le Conseil, ensuite pour la participation aux tribunaux et finalement au cours du 4e siècle aussi pour les réunions de l'Assemblée. Cette indemnisation cependant n'est pas très élevée, en fait elle représente bien moins que le salaire journalier. Comme on le voit, la multiplicité des charges, la brièveté des mandats, l'interdiction du cumul et de la répétition, tout ça ce sont des dispositifs très utiles pour empêcher la bureaucratisation du régime et sa professionnalisation, tout en permettant aux citoyens qui travaillent d'exercer l'ensemble de ses fonctions politiques parce qu'elles prenaient peu de temps, elles occupaient finalement peu de temps sur l'année. Au fond, on pourrait dire que la manière de faire de la politique actuelle, à savoir une discipline de parti dans laquelle le but principal du parti est de placer un maximum de membres et de sympathisants au maximum de postes de décision et d'exécution, au fond cela, à l'époque, ça s'appellerait une conjuration oligarchique. Donc une conjuration pour se partager le pouvoir entre quelques-uns. C'est absolument l'opposé de la logique de la démocratie athénienne. Un autre avantage du tirage au sort, c'est que tout le monde a une grande probabilité de devoir exercer une charge ou même plusieurs durant toute sa vie. Et par conséquent, ça oblige tout le monde à s'intéresser à la chose politique, à être en fait constamment au courant de ce qui est en train de se faire, puisqu'il va devoir assumer une responsabilité. Et c'est ainsi que Thucydide fait dire à Périclès, dans un de ses fameux discours, le discours qu'il fait aux morts de la guerre du Péloponnèse, aux premiers morts d'une bataille de la guerre du Péloponnèse, donc ce beau discours en l'honneur d'Athènes.
Il revient aux mêmes gens de s'occuper à la fois des affaires privées et des affaires publiques. Et tout en étant tournés vers des occupations diverses, ils n'en connaissent pas moins suffisamment les questions politiques. Seuls, en effet, nous considérons celui qui n'y participe en rien, non comme tranquille, mais comme inutile. Et nous jugeons ou réfléchissons nous-mêmes correctement sur ces questions dans l'idée que ce ne sont pas les discours qui nuisent aux actes, mais plutôt le fait de ne pas s'être d'abord instruit par la parole avant d'aller accomplir ce qui convient.
La démocratie, à son époque, n'a pas échappé aux critiques et même aux reproches parfois acerbes. Et au fond, c'est intéressant de voir que les critiques qui lui étaient adressées à l'époque sont encore les mêmes que ce qu'on entend aujourd'hui pour ne pas la réinstaurer, pour ne pas l'appliquer. En fait, on peut en retenir deux principales pour commencer. La première, c'est la compétence, l'argument de la compétence. C'est que l'ensemble de la population n'a pas l'intelligence ou les connaissances nécessaires pour s'occuper de la complexité politique. Et le deuxième argument, c'est que la population ordinaire se laisse beaucoup trop mener par ses émotions et donc aussi par les démagogues qui pourraient exciter ce genre d'émotions. La première critique, elle est effectivement relayée par Socrate et Platon notamment, qui insiste beaucoup sur la nécessité justement d'une professionnalisation de la politique, mais elle est au contraire réfutée par un proche de Périclès très connu à l'époque qui s'appelle Protagoras et reprise près d'un siècle plus tard par Aristote lui-même. Cette réfutation consiste à dire que la compétence pour décider politiquement n'est pas une connaissance théorique, n'est pas un haut niveau d'expertise théorique. C'est en fait, ça repose sur deux choses. Premièrement, le sentiment de la justice, la capacité d'être honnête et juste, ce qu'on oublie vraiment beaucoup actuellement. Et deuxièmement, c'est la capacité de jugement, c'est-à-dire recevoir des informations et juger en fonction de cette information de ce qu'est le meilleur pour la cité. Et ça, aussi bien Protagoras qu'Aristote disent que ça s'acquiert avec une instruction de base qui est accessible à peu près à n'importe qui, d'où la nécessité justement d'avoir une instruction publique qui insiste, qui forme les citoyens à ce genre de choses-là. Par ailleurs, dans son traité de politique, Aristote signale à plusieurs reprises tout l'intérêt d'un grand nombre de citoyens et exerçant des fonctions politiques. Le premier intérêt, c'est qu'on délibère mieux quand on est nombreux plutôt que quelques-uns. C'est ce qu'on appelle actuellement l'intelligence collective. On a beaucoup plus d'aspects et d'expériences en se mettant en un plus grand nombre. Deuxièmement, ce n'est pas l'expert qui est le meilleur juge, mais l'utilisateur. Donc il doit consulter les experts et puis décider en fonction de lui-même. Et troisièmement, on corrompt beaucoup plus difficile un grand nombre de citoyens qu'un petit nombre de décideurs. Là aussi, c'est d'une brûlante actualité. Le deuxième reproche qu'on a adressé le plus souvent, à savoir que les citoyens donc, se laissaient guider par leurs émotions négatives, il est dû en grande partie au contexte de la guerre du Péloponnèse. C'est en effet autour de cette période-là qu'on le trouve le plus souvent chez les auteurs, donc chez Thucydide, chez Platon. Effectivement, il y a eu plusieurs cas de mauvaises décisions prises par l'Assemblée, excitées par un démagogue, on connaît les noms de ce démagogue, mais toujours dans un contexte de menace imminente due à la guerre. Et donc, la panique due à cette menace imminente faisait que des citoyens prenaient des décisions extrêmement violentes ou cruelles ou injustes ou non conformes à leurs propres lois. Mais c'était dans ce contexte. Et il faut souligner que cette guerre du Péloponnèse, elle a été en grande partie causée par l'impérialisme athénien. C'était eux les responsables, les déclencheurs de cette guerre qui a été terriblement meurtrière pour l'ensemble des cités grecques. Et donc ça nous apprend aussi quelque chose sur les précautions à prendre si on veut instaurer un régime meilleur. C'est aussi réfléchir aux relations avec ses voisins, puisque c'est la convoitise athénienne par rapport aux richesses des autres cités qui a été mal vécu par ces autres cités et qui a déclenché cette guerre fratricide. Donc c'est une leçon aussi à retenir, je veux dire, la politique n'est pas détachée de la question économique et des relations internationales. Un autre danger qui était couramment évoqué, c'était celui du pouvoir de la majorité au détriment d'une minorité qui serait systématiquement désavantagée. En effet, puisque les pauvres étaient beaucoup plus nombreux, ou les gens modestes beaucoup plus nombreux que les riches, on craignait qu'il y ait des votes systématiques contre la minorité de riches, notamment pour confisquer leurs biens, pour essayer d'en obtenir davantage de richesses. Et donc, évidemment, c'est dans un contexte d'inégalité sociale et même de lutte de classe, hein, depuis des siècles, que cette crainte était tout à fait justifiée. Mais en réalité, il y avait des correctifs qui avaient été mis en place pour éviter ce genre de désavantage d'une minorité. Et c'était qu'on obligeait les riches à contribuer énormément au développement de la cité, notamment aux édifices publics, aux processions et autres fêtes et cérémonies religieuses, et aussi à la construction des trières, c'est-à-dire des navires de guerre. Donc les riches contribuaient énormément, beaucoup plus que les pauvres. Et ça équilibrait en fait ce problème de classe sociale, et ça faisait en sorte qu'on n'avait pas besoin de les prendre pour cible pour récupérer cette inégalité de richesse. Alors néanmoins, puisque nous cherchons dans ce passé des indications d'erreurs à ne pas commettre, il faudra réfléchir évidemment s'il n'y a pas d'autres types de divisions systématiques de la société dans certaines classes qui feraient que systématiquement une majorité prendrait des mesures opposées à toujours les mêmes minorités. Donc bien entendu, c'est quelque chose auquel il faut penser. C'est d'ailleurs pourquoi Aristote écrivait déjà dans La Politique que la démocratie est un régime qui ne peut fonctionner que lorsqu'il y a une importante classe moyenne et très peu de différences de richesse entre les citoyens. Et c'est un argument qui va être repris à l'époque moderne, notamment par Rousseau dans Le Contrat social, le fait qu'il faut être des citoyens de à peu près une égalité de revenus si on veut que ce régime fonctionne convenablement. Alors, en revanche, ce qui est curieux, c'est qu'on ne trouve nulle part dans les écrits et dans les critiques de l'époque une faiblesse qui, par contre, a posteriori nous paraît évidente, c'est qu'il y avait beaucoup trop de citoyens à l'Assemblée pour qu'on puisse mener un véritable débat. En effet, les citoyens étaient, selon les époques, disons, entre 25 000 et 40 000. Tous n'allaient pas à l'Assemblée, mais enfin, il y avait un quorum pour certaines questions qui était fixé à 6 000 citoyens. De toute façon, ils étaient des milliers. Alors, on sait bien qu'il n'y avait pas de véritable échange d'arguments entre eux. Il y avait des discours présentant des positions variées, éventuellement antagonistes, et puis des votes pour l'un ou l'autre de ces discours. Ce n'est pas ce que nous appelons, nous, exactement une démocratie. Pour nous, la démocratie directe, c'est une démocratie de débat. C'est une démocratie où on élabore ensemble une position commune et non pas où on choisit une position qui est prôné par certains et désavantagé par d'autres. Donc on va beaucoup plus travailler à élaborer quelque chose qui soit la volonté commune, comme on le prônait d'ailleurs plutôt dans les écrits les plus avancés de l'époque moderne.